Loué et remercié soit notre Dieu de ce que ce n'est pas seulement que nous chantons, mais nous avons dans notre cœur, nous portons dans notre cœur la conviction que nous serons là-bas. Il est allé nous préparer une place. Je voudrais cet après-midi de tout mon cœur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, souhaiter la bienvenue à tous, particulièrement ceux qui éventuellement sont ici pour la première fois. Est-ce que nous pourrions voir vos mains si vous êtes ici pour la première fois? Puis-je voir vos mains? Oh, plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Parmi nous, c'est notre prière à tous. J'en suis convaincu. Mais que cela soit seulement la première fois. La deuxième fois, vous devriez déjà vous sentir à la maison et être déjà une partie des frères et des sœurs, devenu déjà une partie des frères et des sœurs qui se rassemblent ici, en cet endroit. Pas au nom d'une église ou d'une église libre, pas dans le nom d'un homme, mais dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le nom de Jésus, dans ce nom divin, dans ce nom saint, dans ce nom du Rédempteur, ce nom dans lequel notre salut, notre rédemption, notre délivrance, notre guérison, notre tout. Donc tout est pour nous continuer dans ce nom. Jésus, Jésus, le nom le plus beau pour moi. Tu es tous mes désirs et remplis mon cœur de rayons de soleil. Au milieu, parmi ce désordre, cette confusion, au milieu des choses de ce monde, ce nom brille et resplendit, le nom de Jésus. Au milieu, parmi le peuple de Dieu, comme le nom le plus précieux, la chose la plus précieuse qui nous a été accordée, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ, que Dieu, dans ce temps, par sa grâce, nous a accordé. Je ne dois pas oublier de remettre les salutations les plus fraternelles des frères et des sœurs de Krefeld, de les remettre ici, le frère Rus et le frère Schmidt. Vous salue particulièrement et aussi de Heilbronn, de la région de Heilbronn, de la région de Nürnberg en Allemagne et hier soir de Salzbourg en Autriche. C'était toute l'Autriche qui était rassemblée à Salzbourg. La salle était plus que remplie et nous avions eu une réunion merveilleuse, un temps merveilleux et un temps béni dans la présence de notre Dieu. Et tous, très cordialement, vous saluent tous de tout leur cœur. Alors je voudrais comme introduction lire une parole avant la prière du psaume 68. Psaume 68, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. En allemand, ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant la face de Dieu. En allemand, meurent devant la face de Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant la face de Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Au milieu de toutes ces tribulations et ces épreuves, dans le cœur des enfants de Dieu, il y a des transports d'allégresse. Je crois que c'était Paul et Silas qui furent frappés, c'est-à-dire très durs, et j'étais en prison. Et il est dit que vers minuit, ils ont chanté des cantiques, des psaumes. Ils ne se sont pas plaints et ils n'ont pas murmuré. Ils ne se sont pas fait de reproches l'un à l'autre et se poser la question, mais qu'est-ce que nous avons, quelle erreur nous avons fait pour devoir subir tout cela? Ils ont glorifié Dieu et Dieu, en tant que le Dieu Tout-Puissant et le présent, s'est révélé à eux, comme celui qui est présent et Tout-Puissant. C'est ainsi que nous aussi, de notre passage dans cette vie, par les montagnes et les vallées, par les hauts et les bas, les joies et les tristesses, nous ne voulons pas oublier d'apporter à notre Dieu la reconnaissance que nous lui devons. Et je crois que le temps apparaît dans lequel Dieu aura une troupe qui sera une bénédiction pour les autres. Nous pouvons racheter le temps dans lequel nous sommes arrivés. Et nous ne pouvons plus, comme ça, à la légère, traiter ce temps. Nous devons le racheter devant la face de Dieu. Et je ne sais pas, mais il y a deux événements qui se sont passés à Krefeld dans les derniers 14 jours. Et ces deux événements ont parlé particulièrement à mon cœur. L'un de ces événements était que je venais de la poste centrale. J'étais sur le trottoir, je venais du trottoir et un homme d'un âge moyen m'adresse la parole et me demande, d'un moyen âge, me demande, comment est-ce que vous êtes satisfait? Êtes-vous satisfait de votre voiture? Alors je lui ai dit, mais cela ne devrait pas être important. Il dit, mais un moment, je suis pas encore arrivé avec vous. Où est-ce que je veux arriver? Je vais vous parler. Je n'avais jamais dans ma vie vu cet homme et entendu cet homme. Et il me demandait, qui êtes-vous? Donc, je me suis présenté brièvement et sa réponse a été, venez avec moi, s'il vous plaît. Je vous invite à prendre un café. Je veux écouter ce que vous avez à me dire. Et je lui ai dit, mais écoutez, bien-aimé ami, moi, je n'ai rien à vous dire, mais Dieu a beaucoup de choses à vous dire. Il dit, oui, c'est justement ce que je veux écouter. Je pensais, mais cela n'existe pas. Cela, jusqu'à cette heure, je ne l'avais jamais vécu ainsi. C'était il y a 14 jours, exactement. Et la dernière semaine, quelque chose de semblable s'est passé. Je rentrais dans la rue Le Rhin et je vois à une vitrine, c'est écrit la parole, une nouvelle ouverture. Et je ne savais pas en ce moment si c'était une pâtisserie ou bien quelque chose de ce genre. Et en fait, j'étais pressé, en fait. Et malgré tout, je suis quand même entré. Et je vois un homme qui resplendit sur tout son visage, me sourit. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous rend si heureux? J'ai même pas demandé, mais qu'est-ce que vous avez à offrir ou bien à vendre? Hein, il travaillait dans la pâtisserie. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous rend si heureux? Il me dit, tout ce que je le fais par amour. Alors, je pensais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et ma réaction était, oui, mais de quel amour vous faites toutes choses? De l'amour humain ou bien alors de l'amour divin? Et quand je lui posais cette question, il était exactement perplexe comme moi je l'ai été auparavant en le voyant sourire ainsi. Et il m'a dit, mais un moment, avec vous je dois parler. S'il vous plaît, vous pouvez entrer derrière le comptoir et dans la pièce à côté derrière. Je lui ai dit, mais tout d'un coup il veut parler avec moi. Où cela existe? Bien, frères et sœurs, vous voyez, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Si nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit, nous n'avons même pas besoin de chercher les hommes. C'est Dieu qui les cherche. Mais il les conduit à nous, il les met sur notre chemin et il rétablit le contact avec eux. Et alors, il nous accorde la possibilité ainsi de parler avec les hommes. Et que ce soit une parole de Dieu, pas sur des choses qui n'ont aucun sens, pas de manière fanatique, mais vraiment dans l'amour de Dieu, parler avec les hommes et leur montrer le chemin du salut. Avant que nous continuions avec cette réunion, nous voulons nous lever pour ensemble prier. Père céleste, nous venons dans ta présence, dans le précieux et saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous plaçons sous ton précieux et saint sang et te demandons la conduite de ton Saint-Esprit. Tu sais ce dont chacun individuellement a besoin, que nous ne puissions pas être venus à un homme, sinon nous serons déçus. Mais celui qui met sa confiance en toi-même, qui se confie en toi-même, ne sera pas confus et ne sera pas confus. Ne sera pas dessus. Prends entre tes mains cette réunion, ôte tout ce qui dérange de ma vie, de nos vies à tous. Prends tout ce qui dérange et crée-toi un chemin de manière puissante parmi nous pour que tu puisses, Seigneur, descendre parmi nous comme au commencement dans ton Église. Et que tu puisses te manifester comme le ressuscité, comme le vainqueur de Golgotha. C'est à toi que déjà maintenant nous apportons la reconnaissance de ce que, Seigneur, dans cette réunion, tu manifesteras ta victoire, la victoire sur le péché, sur la maladie, sur toute la puissance de Satan. Tu révélera cette victoire en tous ceux et pour tous ceux et par tous ceux qui de tout leur cœur te croient et sont certains que tu es plus que capable d'accomplir tes promesses. À toi soit la reconnaissance et l'adoration dans le saint nom de Jésus. Amen. Jérémie, chapitre 25, à partir du verset 30. Mais tu leur annonceras toutes ces paroles d'avertissement. L'Éternel rugit d'en haut. Il fait entendre sa voix de sa sainte demeure. Il rugit d'une voix forte sur son pâturage. Il pousse des cris comme les fouleurs de presse contre tous les habitants de la terre. Le bruit se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. Car l'Éternel jugera les nations. Il plaidera sa cause avec toute l'humanité. Il livrera les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Une catastrophe vient d'une nation à l'autre et une tempête violente vient des extrémités de la terre. En ce jour-là, les morts de l'Éternel seront couchés d'un bout à l'autre de la terre sans être pleurés, sans être emportés et enterrés. Ils deviendront du fumier en plein champ. D'abord, cette écriture jusqu'ici, nous vivons dans un temps dans lequel cette écriture, ce verset, où il est écrit au verset 32, une catastrophe vient d'une nation à l'autre. Et une tempête violente vient des extrémités de la terre. Sous nos yeux, ce verset s'accomplit. Le verset 32. Ce que nous écoutons pendant, dans ces jours devrait faire sonner l'alarme très forte parmi les nations et particulièrement parmi le peuple de Dieu. Ce n'est plus un jeu d'enfant et ce ne sont plus des petites choses insignifiantes qui se passent dans nos jours. Ce sont des choses qui sont en train de s'accomplir. C'est l'accomplissement des Saintes Écritures en grande mesure. Et je pense que nous, comme enfants de Dieu, nous ne devrions pas mépriser ces choses, mais nous devons nous poser la question, Seigneur, combien de temps encore et quelle est ta volonté et qu'est-ce que tu attends de nous dans ce temps? J'ose le dire, et sûrement que ici, tout à l'heure je l'ai déjà dit, ou bien auparavant, il y a deux puissances mondiales, donc appelées ainsi, soi-disant, puissances, mais en fait, il n'y a qu'une seule toute-puissance, et ça c'est la toute-puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Tout ce qui se fait appeler puissance mondiale bientôt elles seront détruites et devront se prosterner devant la toute puissance du Dieu tout puissant. Mais le point que je voulais souligner est le suivant. Je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps ici et là, en le répétant, l'Est agit et l'Ouest négocie. Et nous devons être attentifs et voir de quelle manière les objectifs sont atteints. Ce n'est pas par des négociations ou par des discussions, mais c'est par une action directe, c'est en agissant directement. Par une action directe. Dieu, lui, il agit, il ne négocie pas. Il agit Il marche parmi son peuple et il nous laisse, avec les yeux spirituels, percevoir les choses importantes, les choses qui comptent pour nous dans ce temps. Et si nous lisons qu'une catastrophe vient d'une nation à l'autre et d'un peuple à l'autre, et qu'une tempête violente vient de l'extrémité de la terre, des extrémités de la terre. Jérémie 25, verset 32. Donc, on doit comprendre ici qu'il y a des choses qui sont en train de prendre forme, qui ne vont pas rester sous le contrôle humain. Cela sera pris de la main de l'homme, tombera de la main de l'homme et sera plus sous leur contrôle. Et nous constaterons que la parole de Dieu, jusqu'à dans ces détails, dans tous ces détails, très bientôt, s'accomplira. Mais si déjà les choses extérieures sont si proches, sont si rapprochées, alors comment plus proches sont alors, comment si, plus proche est encore l'enlèvement? Et l'enlèvement, oui, de l'Église de Jésus-Christ. Si c'est ça, les choses extérieures sont proches. Nous n'attendons pas encore une troisième, de vivre une troisième guerre mondiale. Nous n'attendons pas le jour qui brûlera comme un four. Mais nous nous attendons à être enlevés avant ce grand jour terrible et redoutable de l'éternel, car c'est ainsi que de la parole de Dieu, nous l'avons entendue, et c'est ainsi que nous croyons ces choses. Tel que c'était du temps de Noé, c'est ainsi que ce sera aussi dans les jours quand le Fils de l'homme se révélera. Pas seulement manger et boire et les choses extérieures, c'est pas seulement les choses extérieures qui étaient d'une grande importance du temps de Noé, mais ce qui a été plus important, c'est que Noé et tout ce, c'est-à-dire tout ce que Dieu avait accordé de croire au message divin de l'époque, ils sont tous entrés dans l'arche avant que le jugement frappe le monde incrédule. C'est exactement ce qui s'est passé dans les jours d'Abraham, alors que Lot habitait encore à Sodome. Là, le Seigneur parla dans Genèse, chapitre 18, et avec Abraham, et a envoyé les deux anges à Sodome. Il ne pouvait rien faire jusqu'à ce que Lot soit sorti de Sodome. C'est seulement après que le feu pouvait tomber et la destruction pouvait avoir lieu. L'Église épouse, elle ne s'attend pas au jour du jugement, au jour qui brûlera comme un four. L'Église épouse attend le jour glorieux du retour de notre bien-aimé époux qui nous a sauvés et nous a appelés de notre nom, de nos noms, et qui a expié nos fautes et nos péchés et qui est allé pour nous préparer une place. Et il disait, je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis aussi. Et alors, il donna la promesse par le Nouveau et par l'Ancien Testament qu'il enverra un prophète avant ce grand jour terrible et redoutable de l'Éternel qui retournera le cœur des enfants de Dieu de nouveau à ce que les pères dans l'Église primitive avaient reçu comme révélation de Dieu ce qu'ils avaient cru et ce qu'ils avaient enseigné. Le cœur des enfants sera retourné à cela. Et nous savons que cette promesse s'est accomplie dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21, il est écrit. Peut-être que nous le lisons de préférence pour que nous puissions toujours l'avoir exactement, car très souvent, des versets bibliques avec de bonnes intentions peuvent être mal cités. Et c'est peut-être raison que c'est toujours mieux et nécessaire de lire chaque verset biblique pour avoir exactement cela comme ce qui est écrit, comme c'est écrit. Ou bien alors avoir les choses comme nous devons les dire. Actes apôtres, chapitre 3, verset 19. Il lit à partir du verset 19. Répentez-vous donc, Actes 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, de la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus qui a été désigné pour vous comme oint. Ceci cependant, le ciel doit le recevoir jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a déclaré par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Particulièrement, il s'agit pour moi ici de ce verset 21. Jésus, notre Seigneur, doit rester au ciel et attend jusqu'à ce que tout soit restauré comme Dieu l'a déclaré par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas écrit ici dans le Nouveau Testament cette expression telle qu'il a déclaré par les enseignants, par les docteurs, par les évangélistes et par les bergers, par la bouche de ces... Pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit ici, déclaré par la bouche de ces docteurs, évangélistes ou bien bergers? Pourquoi dans le Nouveau Testament, cette expression utilisée dans l'Ancien Testament est reprise ici? Je répète encore cela ici. Ceci, cependant, le ciel doit le recevoir jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a déclaré. Restauration de tout ce que Dieu a déclaré par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Dans le message de la fin des temps, et cela peut-être pourrait apporter certaines personnes à réfléchir, et peut-être d'autres, ça pourrait être une pierre d'achoppement pour d'autres, mais je vous pose la question. Dans ce message révélé par Dieu, il faut que tout de Genèse, chapitre 1, verset 1. Pas seulement de Matthieu, chapitre 1, verset 1. Mais il faut que tout, de Genèse 1, verset 1, jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22, le dernier verset, il faut que tout, les mystères de Dieu soient révélés. Avez-vous compris cela? Alors dites Amen. Ici, il est écrit ce que Dieu a déclaré, pas ce qu'un homme, ou bien pas ce que des prophètes, ou bien de leur propre chef ont déclaré, mais ce que Dieu a déclaré par la bouche de ses saints prophètes. Et cela depuis les temps anciens. Cela ne nous étonne pas. C'est peut-être raison que cela ne nous étonne pas que frère Branham n'était pas seulement un apôtre, ou bien n'était pas seulement un évangéliste, n'était pas seulement un docteur, mais il était un prophète. Il a été un prophète tel que depuis les jours du Seigneur, cela n'avait plus existé sur cette terre. Comme aucun n'avait marché sur la terre depuis le jour du Seigneur. Cette vue spirituelle et cette vue divine dans le dessein du salut de Dieu, qu'un prophète reçoit par la révélation divine est tellement profonde et tellement vaste que parfois nous avons de grandes difficultés, nous pourrions avoir de grandes difficultés à entrer dans la profondeur de ces profondeurs de la divinité et de ses mystères. Mais si nous avons reçu cette confiance et que nous savons que ce n'est pas un homme, mais que c'est Dieu lui-même qui a parlé, alors cela, pour nous, s'est passé une fois pour toutes. Alors qu'un frère me disait, on devrait détruire toutes les photos. Là, j'ai pu seulement dire, frère, si le Dieu Tout-Puissant, dans la colonne de feu, descend, comme dans les jours de Moïse, et cela dans une situation très critique à Houston, au Texas, en janvier 1950, alors que frère Branham et le frère ont été mis sous pression, oui, par ses ennemis religieux, au sens même du mot. Un prédicateur sur la plateforme a tenu le point devant le visage du frère Bosworth, devant 12 000 personnes, et l'a chicané jusqu'au bout, et a dit, où est ton ami Branham qui prétend que Dieu est avec lui et qu'il a envoyé avec un mandat particulier? Avec un mandat particulier. Et frère Branham, qui est assis dans la salle, écoute ces paroles qui viennent de la plateforme, et alors il descend, il est descendu silencieusement, effacé comme il l'est toujours. Et maintenant, c'est passé la chose étrange et extraordinaire. Cet homme de Dieu ne se laisse pas entraîner dans des discussions. Il a dit, le Dieu qui m'a appelé et qui m'a envoyé, lui-même rendra témoignage pour moi avant même que je rende témoignage pour lui. Et c'est à ce moment-là que la colonne de feu apparut sur sa tête. Et Mr. Ayers, qui travaillait pour les journaux comme photographe, prit des photos. Et nous connaissons tous cette photo avec la colonne de feu sur la tête de Frère Branham. Nous n'avons pas affaire à un homme qui voulait devenir quelque chose de grand, qui voulait se faire un nom. Nous avons affaire à Dieu qui, avant le retour de Jésus-Christ, a envoyé son serviteur et prophète pour, dans cette génération, et dans cette génération, devait être révélé, comme déjà souligné, pas seulement ce que Dieu avait déclaré dans le Nouveau Testament, mais aussi ce que Dieu avait déclaré par tous les prophètes des temps anciens. Et il y a des hommes qui ne sont pas prêts à se soumettre, qui ne peuvent pas se soumettre sous la main puissante de Dieu, qui très rapidement utilisent cette expression. Oui, mais nous devons d'abord tout examiner. Bien-aimés frères, nous pouvons aller d'église en église, d'église religieuse en église religieuse et d'église libre en église libre religieuse. Chacune revendiqueront cette, utiliseront cette phrase pieuse. Nous devons tout examiner. Mais comme première chose d'abord, nous devons nous examiner nous-mêmes, premièrement. Ça, c'est ce que les Saintes Écritures nous disent, que chacun s'examine lui-même. Et ensuite, je veux encore vous dire quelque chose. Les prophètes de Dieu, qui depuis le ventre de leur mère, avaient été déterminés à être établis pour dans un ministère extraordinaire de Dieu, Dieu les a examinés. Amen. Dieu lui-même les a examinés. Et maintenant, il y a cette pensée qui me vient, qu'un frère me disait, il disait, frère Franck, si quelqu'un apprend un métier, alors il y a ensuite deux examens. Quoique vu ensemble, ce n'est qu'un seul examen. C'est-à-dire, après la formation, il y a un examen théorique et un examen pratique. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons maintenant? Si quelqu'un a appris un métier, a fait une formation, il doit passer par un examen théorique et il doit avoir un examen pratique. Il doit avoir un examen théorique et pratique. Et ce sont ces deux résultats qui seront ensuite notés, et c'est selon les deux notes de ces deux examens qu'il recevra un bulletin. Moi, je suis maintenant convaincu que la phase de l'examen théorique est terminée et que Dieu maintenant nous a fait passer de l'examen théorique à l'examen pratique et que nous devons maintenant à tout prix réussir cet examen pratique. Et cela avec l'aide de Dieu et le soutien de Dieu. Je ne sais pas comment les choses ont été pour vous tous à l'école. Mais moi, je n'étais pas un bon écolier. J'avais avec chaque matière le même problème. Rien n'était bon pour moi. Et en mathématiques, j'ai regardé à droite et à gauche, etc., pour pouvoir ainsi avoir, donc pour pouvoir suivre. Je n'ai pas regardé à droite et à gauche pour trouver une erreur dans cet exercice de mathématiques. J'ai regardé à droite et à gauche pour apprendre, pour chercher à comprendre comment résoudre le problème. Si quand nous regardons à l'un et à l'autre, à droite et à gauche, c'est pour recevoir de l'aide, afin de pouvoir résoudre les problèmes, cela pourra aller. Mais si nous regardons à droite et à gauche pour trouver des erreurs dans l'exercice de l'autre pendant la leçon, pour ensuite pouvoir en parler, cela ne marchera pas. Même pendant l'examen, nous étions plusieurs dans la salle, mais chacun devait avoir son examen. Chacun devait réussir son examen. Lors d'un devoir de classe ordinaire, les gens pouvaient du moins, chez nous, regarder à droite et à gauche. Mais pendant un devoir d'examen, chacun était assis seul. Et il n'était pas possible de regarder à droite et à gauche. Là, il devait être révélé si pendant les cours tu avais suivi ou pas, si tu avais compris les sujets de l'année ou pas. Mais bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés dans l'heure de l'épreuve. Et je ne sais pas, mais dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, il est parlé de l'heure de la tentation qui viendra sur toute la surface de la terre. est-ce que nous voulons, avec l'aide de Dieu, apprendre l'un de l'autre, mais encore mieux apprendre. Mais bien, mes frères, est-ce que nous voulons apprendre l'un de l'autre et encore plus apprendre du Seigneur, de notre Maître? Car qui pourrait mieux nous enseigner que lui? Nous savons que les gens peuvent être docteurs, peuvent être évangélistes, peuvent et néanmoins être affligés de défauts humains. Et cela pourrait même nous enliser et même nous retarder si on voulait apprendre d'eux. Mais si nous regardons Seigneur, alors nous pouvons dans chaque situation apprendre. Il disait même, apprenez de moi, venez à moi, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Qui peut le dire? Apprends de moi, car je suis doux et humble. Parfois, on pense l'être et nous ne le, et malgré tout, nous ne le sommes pas. Mais lui, il était doux et il était humble. Et en lui, il n'y avait aucune erreur, aucun mensonge est sorti de sa bouche. L'agneau de Dieu, sans erreur, sans faute, parfait. Et c'est lui qui avait répandu son saint sang sur la croix à Golgotha. Pour que nous aussi, afin que nous aussi, par l'offrande de son corps, une fois pour toutes, nous soyons rachetés, affranchis et sanctifiés. Dans Hébreux, cette expression est écrite, par l'offrande de son corps, il a accompli une rédemption valable éternellement. Pas une rédemption qui est valable quelques années, quelques semaines, ou bien quelques mois seulement, mais une rédemption valable éternellement. Dieu en Christ sur la croix à Golgotha, pour toi et pour moi, a accompli une rédemption valable éternellement. Et c'est à cela que nous nous attachons fermement. Et pour cela, nous remercions notre Dieu. Mais maintenant, nous devons, n'est-ce pas, réussir nos épreuves. Peut-être que le temps d'apprendre de l'un de l'autre est passé. Le temps de tricher en regardant à droite et à gauche pour voir comment l'autre fait pour pouvoir résoudre son propre problème et aller de l'avant. Peut-être que l'heure est là où nous devons nous redresser et regarder en haut, comme le Seigneur lui-même disait dans Luc 21. Quand vous verrez que toutes ces choses commencent à arriver, s'accomplissent, redressez-vous et levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Alors nous ne devons pas, nous ne devons plus regarder à droite et à gauche, mais fixer les regards vers le haut, parce que notre rédemption est proche. Luc, chapitre 21, s'accorde très bien avec la parole que nous avons lue dans l'Ancien Testament, dans Jérémie, et s'appliquera aussi très bien au temps dans lequel nous sommes arrivés. Luc, chapitre 21, à partir du verset 8. Il dit, là il répondit, prenez garde qu'on ne vous induise en erreur, car beaucoup viendront sous mon nom, disant, pas seulement dans leur propre nom, mais sous le nom du Seigneur. Car nous sommes déjà arrivés à ce point où les gens, justement, ont perdu la confiance et ont perdu l'orientation spirituelle et ne l'ont plus, comme ça, à leur disposition, ne l'ont plus, en fait. Comme ça devrait, comme ils devraient l'avoir. Et il y a aussi des gens qui disent, nous Nous ne venons en aucun nom. Nous venons seulement au nom de Jésus. Et ici, il est dit dans les Saintes Écritures. Et il répondit, « Prenez garde qu'on ne vous induise en erreur, car beaucoup viendront sous mon nom, disant, « c'est moi. » Et le temps est arrivé. N'allez pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerre et de bouleversement, ne criez de guerre ou de bouleversement, ne soyez pas terrifiés, car il faut que cela arrive d'abord. Mais ce n'est pas tout de suite la fin. Il leur dit alors, le verset 10, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des famines et des pestes. Et il y aura des choses effrayantes et de grands signes venant du ciel. Des apparitions effrayantes et de grands signes venant du ciel. Maintenant, le verset 25. Et il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les astres. Et sur la terre, une angoisse des nations, inquiète du fracas de la mer et de son agitation. Les hommes, expirant de frayeur et d'anxiété, pour ce qui doit arriver à l'univers. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, « Redressez-vous et relevez la tête parce que votre rédemption approche. » Alors, si nous pouvons voir tout cela sous nos yeux, parmi les peuples, parmi les nations, et si nous ressentons avec ceux qui souffrent, et je pense que, comme enfants de Dieu, nous devrions, avec tous les hommes, ça n'a pas l'importance de quelle nationalité ils pourraient être, dans leur détresse, leur douleur, nous devrions ressentir avec eux et avoir de la compassion. Et je ne veux pas jamais m'insérer dans la politique, m'impliquer dans la politique. Mais nous savons que l'islam a déclaré la guerre au judaïsme et au christianisme. Et nous savons que dans toutes ces nations dites chrétiennes, leur conducteur, leur président, leurs chanceliers fédéraux n'ont jamais dans leur discours, d'une manière ou d'une autre, parlé du Christ. Et en le mettant en lumière. Mais Jimmy Carter, dans son discours, même dans son discours d'élection, est venu même à parler de la nouvelle naissance. Discours que notre magazine, Le Spiegel, donc Le Miroir en français, Le Spiegel, le magazine le plus critique que nous avons en RDA, République démocratique d'Allemagne, discours que le magazine a redonné dans son intégralité avec le verset même de Jean. Chapitre 3, écrit dans le magazine entièrement. Vous devez naître de nouveau. Et les rédacteurs l'ont peut-être comparé, ont voulu le comparer donc à Billy Graham et l'ont qualifié de mitrailleuse de Dieu d'évangéliste, mais pas de président. Et ils se sont moqués de lui dès le début, comme toujours, mais l'ont méprisé. Et je peux me permettre un jugement à ce sujet parce que je me suis un peu préoccupé des choses au niveau international. Cet homme, peu importe quelles pensées les gens ont sur lui, cet homme a fait en sorte que le monde entier, entende ce qu'un Billy Graham n'a pas réussi à faire. Ça, c'est un Jimmy Carter qui a réussi à mettre en lumière dans notre temps le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ et la nouvelle naissance comme impératif pour entrer dans le royaume de Dieu dans notre temps. Et j'ai eu la pensée suivante en lisant cela. Ce grand évangéliste s'est toujours plus, donc Billy Graham, impliqué dans la politique. Et le président qui rentre en fonction s'est toujours plus donné à l'évangélisation. Que savons-nous des voies de Dieu? Aujourd'hui, l'image suivante du prophète Ézéchiel se dessine déjà dans le chapitre 36, 37, 38, ce qui est écrit dans le prophète Ézéchiel se dessine. Toujours plus. Le roi du Nord a fait sa percée dans une situation dont il ne sortira plus. Car il est, selon la parole de Dieu, le chef de tous ces peuples qui marcheront ensuite et devront marcher contre Israël sous sa suprématie. Et nous voyons la situation mondiale actuelle. Elle se détériore de plus en plus pour l'Occident. Mais oublions en ce moment l'Est et l'Ouest. Pensons plutôt à l'accomplissement de la parole de Dieu et ayons la prophétie biblique sous nos yeux. Qui aurait pu s'attendre à ce que le monde arabe libre subitement tombe soudainement aux mains de son soi-disant ennemi juré et que les nations occidentales soient obligées de restreindre leurs relations commerciales et que les nations de l'Est restantes comblent leur vide et se tiennent ainsi côte à côte et soient tressées ensemble de toutes les manières pour ensuite mener conjointement l'attaque prévue dans la parole de Dieu contre le peuple d'Israël. Pour moi, et ça, je le dis ouvertement et clairement. Je vois en cela pas la politique d'un Jimmy Carter ou bien d'un Brezhnev. Je vois ici l'accomplissement clair des prophéties bibliques sous nos yeux. Et je pense que nous devrions également, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous qui remarquons que le temps vraiment va vers sa fin, nous devrions également renforcer nos relations les uns avec les autres. Nous devrions nous mettre ensemble, nous rapprocher les puissances ennemies les uns les autres. Nous devrions le faire. Les ennemis d'Israël savent que c'est qu'en étant ensemble que cela leur réussira, comme ils le pensent, de frapper d'un coup puissant Israël. Mais enfants de Dieu, frères et sœurs, ne pensez pas que nous pourrons avoir la victoire de Dieu, que nous pouvons avoir la victoire de Dieu si nous nous combattons entre nous et sommes contre l'un l'autre. La victoire de Dieu ne peut être révélée que là où le peuple de Dieu devient un cœur et une âme comme dans la chambre haute, c'est alors que le Dieu Tout-Puissant peut vraiment se révéler, comme autrefois. Et si les nations se mettent ensemble et montrent ainsi leur solidarité, indépendamment de la race, de la couleur de peau et de ce qui s'est passé entre elles ou pas, elles se mettent ensemble. Parce que la prophétie biblique est certaine et le temps est arrivé où les prophéties bibliques doivent s'accomplir. Alors je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, dans ce temps dans lequel nous sommes arrivés, dans lequel les prophéties bibliques doivent s'accomplir pour l'Église, mettez-vous ensemble, épaule à épaule et cœur à cœur. C'est seulement de cette façon que nous pourrons vaincre dans ces derniers jours et nous tenir, non pas seuls, non pas divisés, non pas en querelle les uns avec les autres, mais unis sous une tête. Et ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est ma prière. Et avant que cela soit ma prière, ça était la sienne. La prière de notre Seigneur. Il disait, Père, moi en eux et toi en moi, afin que nous soyons tous un. Il n'y a pas de politique religieuse sous laquelle le peuple de Dieu pourra s'unir. La politique religieuse apporte la division au sein du peuple de Dieu. Mais la révélation de Jésus-Christ et la révélation de sa puissance, de sa précieuse parole apporteront l'unité par l'Esprit de Dieu dans l'Église du Dieu vivant. Et je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme enfants de Dieu, nous devons cela à notre Seigneur. Je sais que nous vivons dans un système démocratique. Et chacun peut dire ce qu'il veut. Mais je me pose la question, est-ce qu'on peut rapporter à l'Église du Dieu vivant une politique démocratique et que chacun dans l'Église du Dieu vivant dise ce qu'il veut? Ici, nous avons les mesures, les limites de la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et nous devons tous, du premier jusqu'au dernier, nous soumettre à la parole de Dieu. Et je vous le dis, du trajet de Heilbronn à Nürnberg, j'ai presque seulement pleuré. J'écoutais les nouvelles et j'ai entendu parler de la mésaventure et de tout ce qui est en train de se passer. Et je disais, Seigneur, ton retour est si rapproché. Comment est-ce que je me tiendrai devant toi? Comment est-ce que j'apparaîtrai devant toi? Et j'ai pu dire au Seigneur, et je lui ai dit merci pour le privilège qu'il m'a donné de le servir. Mais j'ai dit, Seigneur, s'il y a encore quelque chose dans ma vie qui ne peut pas se tenir devant toi, subsister devant toi, pardonne-la, expie-la, ôte-la. Et j'ai pu me vider de mes larmes dans la voiture pendant que je conduisais pour aller à Nürnberg. Mais cela m'a saisi intérieurement, profondément. Et je disais, Seigneur, chaque jour pourrait être le dernier jour que nous vivons. Chaque semaine pourrait être la dernière que nous vivons. Qu'est-ce que nous attendons encore pour se mettre ensemble? Notre Dieu fait qu'attendre que nous soyons un. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, avant de pouvoir faire une offrande de farine, de blé, les grains de blé devaient être moulus individuellement. Chaque grain de blé devait être moulu. de manière à ce que chaque blé, chaque grain de blé perde leur identité propre et se fond et à se fondre dans le tout, afin que les mains puissent ensuite former cette partie. Ô Église du Dieu vivant, nous devons être moulus. Chacun individuellement, nous devons être un. Et si vraiment nous le sommes devenus, pas par des ingrédients humains, pas par des programmes humains, mais être fondus sous le feu du Saint-Esprit et être unis sous Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors nous prendrons une seule décision. Ce sera de parler seulement des merveilles de Dieu qu'il a fait et que nous avons souvent entendu, comme nous l'avons souvent entendu, à tel point que cela pourrait ne plus nous toucher, de l'entendre, nous toucher le cœur et ne plus nous saisir. Et ça, ce serait la chose la plus grave qui pourrait nous arriver. Que la parole de Dieu puisse toujours nous toucher et nous saisir intérieurement. Comme si le Seigneur lui-même se tiendrait devant nous, corporellement, et parlerait cet après-midi avec nous. Ainsi, posez-vous la question, quelle est l'attention que nous donnerions au Seigneur? Comment est-ce que nous écouterions si le Seigneur, visiblement, dans un corps de chair, se tiendrait là devant nous et parlerait avec nous? Quelle est l'attention? Oh, nous nous redresserions sur nos chaises. Nous nous donnerions entièrement à lui, de la profondeur de notre âme, et chaque parole de sa bouche serait pour nous plus précieuse que le miel. Alors notre Seigneur adresse cette parole à ceux qu'il a appelés et qu'il a envoyés, qu'il a appelés et mandatés. Il leur a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons affaire à Dieu, pas à un homme. Et ça, je le dis encore une fois, un frère Branham ne voulait pas aller, comme Moïse ne voulait pas aller non plus, comme un Samuel ne voulait pas aller, comme un Jérémie ne voulait pas aller. C'est la même chose aussi. Frère Branham ne voulait pas aller, et ça, je vous le dis, du 2 avril 62 jusqu'à avril 66, souvent, je me suis déplacé comme ça en pleurant, et je disais, Seigneur, prends qui tu veux, d'autres, j'ai pas de tact, et je suis pas fait pour ça. Et ensuite, l'heure vint, où cela devait s'accomplir, qu'est-ce que j'en peux, les appels et les dons de Dieu sont pour Dieu irrévocables. Toi, tu peux ressentir un regret pour avoir pris telle et telle décision. Mais Dieu, il ne le peut pas. Il sait toutes choses avant même qu'elles commencent, avant même leur commencement. Il sait déjà comment elles vont se terminer, ou bien leur prendre fin. Et il sait que dans cette génération, l'Église épouse doit, en tant que fils mâle. Et laissez-moi vous dire cela, car frère Branham, n'est-ce pas? Il y a trois domaines de développement qui lui ont été révélés dans son ministère. Le premier était l'évangélisation, avec la guérison des malades puissante. Et l'autre, c'était l'enseignement. L'autre domaine, c'était l'enseignement. Donc, de revenir au modèle originel de ce qui avait été enseigné dans le temps des apôtres et fait dans le temps des apôtres et pratiqué dans le temps des apôtres. Mais le troisième domaine, qui est sans appel. C'est la révélation prophétique du dessein du salut de notre Dieu. Et vous savez que le grand homme de Dieu, notre bien-aimé frère Paul, est allé dans l'éternité avant que ce qui était écrit dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, soit connu, encore moins avant que cela puisse être révélé. Nous vivons maintenant, mais nous vivons maintenant dans le temps, dans lequel tout ce que Dieu par la bouche de ses saints prophètes, pas du nouveau temps, mais des temps anciens, depuis le commencement, tout ce que Dieu a déclaré par la bouche de ses saints prophètes, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qui a été révélé dans l'Apocalypse. Jésus-Christ est la fin et l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il marchait dans le jardin d'Éden et il fut crucifié à Golgotha. Il est tout en tous. Frère Branham fait mention de ça. Il fait mention de cela le 1 avril 1962 dans une prédication que ici en Suisse il devait venir avec Mr. Hagenbright et qu'ils se sont préparés pour le voyage quand Dieu le Seigneur lui parla et lui dit, arrête de voyager comme évangéliste du plein évangile, retourne à Jeffersonville et emmagasine la nourriture pour mon peuple. Il l'a dit le 1er avril 1962. Et c'est peut-être raison que le stockage de la nourriture à ce moment-là était encore dans le futur. Et si le Seigneur le veut, je vais en parler dans la prochaine lettre circulaire, car l'Esprit de Dieu m'a poussé à traduire rapidement les prédications tenues après l'ouverture des sceaux et à distribuer la nourriture au peuple de Dieu. Nous n'attendons pas un grand frère Franck qui subitement, avec une puissance extraordinaire, apparaisse. Non, et nous n'attendons pas non plus un Müller ou bien Mayer ou bien un qui apparaîtrait avec un don particulier. Non, nous attendons que la nourriture de Dieu, la parole révélée, dans l'épouse déclenche une telle puissance à tel point que le Saint-Esprit se répande avec puissance et que tout le corps du Seigneur soit placé sur les pieds de la foi et que Dieu encore une fois parmi son peuple puisse se glorifier par tout son corps. J'ai le temps que Dieu prends. J'ai aussi ce temps. Parfois, il y en a qui pensent qu'on doit pousser les gens comme ça à faire ceci et cela. Notre Dieu ne tarde jamais. Encore maintenant, c'est au temps convenable qu'il fera la chose convenable. Nous devons attendre et être patients. Persévérer, ne pas regarder en arrière, ne pas regarder à droite ni à gauche. Ne prêtez pas vos oreilles à toute voix, mais écoutez seulement la voix du Seigneur. Prêtez vos oreilles seulement à la voix du Seigneur qui, dans nos jours, de manière très claire et ouverte, et compréhensible à parler avec nous, s'est adressé à nous, et cela Parle ainsi, dit le Seigneur, par le serviteur et prophète que Dieu a envoyé pour restaurer, rétablir toutes choses dans l'état primitif, pour restaurer toutes choses. Il y aura des hommes qui diront, ici, nous avons toute cette confusion. Est-ce que dans les jours de Jésus, il n'y a pas eu aussi des hommes qui pensaient ainsi? Ils disaient, nous espérions que ce jour, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Non, pas ce que toi et moi, tout ce que nous espérions, pas ce que nous espérons, mais ce que Dieu, selon le déroulement du temps, en accord avec son dessein du salut, dans l'heure voulue par lui, ou bien dans le temps voulu par lui, veut faire. C'est seulement ça qui doit arriver, pas ce que nous espérons. Et j'étais tellement surpris. Justement maintenant, exactement, justement aujourd'hui, il y a une semaine d'ici, je disais au frère Rousse, nous voulons aller aux frères en Hollande. En Hollande, j'aimerais leur dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et le frère, il y avait trois frères, il y en a un qui a écouté, et l'autre disait, frère Frank, alors que nous étions là-bas, donc en Hollande, le frère Jackson, l'ami de longue date de frère Branham, m'a appelé et m'a dit, traduis les prédications de frère Branham qu'il l'a tenu après l'ouverture des sceaux. Je me suis tourné à frère Rousse, qui était assis à ma gauche, et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu dis maintenant? Vous voyez, Dieu va faire toutes choses de la manière correcte, juste. Maintenant, l'épouse doit marcher au même pas et être fortifiée dans son cœur par la nourriture divine. Et je vous dis que ce verset biblique aussi va s'accomplir. Jésus-Christ, notre Seigneur, dit et parle et disait, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, si la parole révélée de Dieu prendra forme dans l'Église épouse, alors il y a une seule chose qui est importante, qui compte, c'est qu'ensemble, nous fassions la volonté de Dieu et que par nous, il puisse par sa grâce exécuter le mandat de l'Église. Et nous pourrions demander, mais avec cela, tous peuvent s'attendre de cela. Ne vous trompez pas. Dieu va jamais laisser manquer un maillon de la chaîne. De la Réformation, l'histoire, sous Wesley, après sous William Booth, c'est passé de Réformation en Réformation, de réveil en réveil, de clarté en clarté, de connaissance en connaissance. Dieu, dans cette génération, depuis 1946, quand l'ange de l'Éternel, visible, corporellement, entièrement, a apparu là où frère Branham était, et lui a donné cet ordre. Et lui a dit, j'ai été envoyé de la présence du Dieu vivant pour te donner cet ordre, ce mandat. Depuis ce moment, une œuvre de Dieu a commencé, une action de Dieu a commencé, qui par ces grandes évangélisations sont devenues petites par l'enseignement. Ensuite, encore plus petite, l'action de Dieu est devenue encore plus petite par la révélation de la parole prophétique. Et peut-être que cela viendra à une comparaison comme dans les jours de Gédéon. De 30 000 personnes, seulement 300 sont restés. Mais alors, Dieu, par 300 personnes qui restent et qui sont et qui agissent seulement dans sa parfaite volonté, Dieu pourra faire plus par cela que par 30 000 personnes qui ne sont pas prêtes à agir selon sa volonté, selon sa parole, en accord avec sa volonté parfaite. Dieu est encore assis sur son trône, et qu'est-ce que la chorale a chanté avant la réunion? Ils ont chanté de manière si merveilleuse. J'aurais souhaité avoir ce texte maintenant devant moi. Notre Dieu gouverne, règne, et jamais quelque chose lui a échoué, et jamais quelque chose est tombé de ses mains. Jamais quelque chose est allé de travers chez Dieu, chez toi et chez moi. Il peut y avoir beaucoup de choses qui nous ont pas réussi, qui ont échoué, qui sont tombées de nos mains. Mais avec Dieu, tout est en ordre. Il n'a jamais fait une erreur et il n'en fera jamais dans tout le futur. Je me réjouis dans le Dieu vivant, pas seulement dans cette génération, pas seulement de vivre dans cette génération, mais d'avoir une part directe à ce que Dieu a dit et à ce qu'il fait. La théorie et la pratique, les deux doivent avoir lieu, doivent se dérouler. Nous avons reçu l'enseignement et maintenant, nous allons traduire les dernières prédications. Et je demande à tous, tant que je pense à cela, lisez les prédications de Frère Branham, les brochures, pas une seule fois. Lisez-les deux fois, lisez-les trois fois et priez sur ce que vous avez lu jusqu'à ce que Dieu vous ouvre l'intelligence et la compréhension pour les Saintes Écritures, jusqu'à ce que Dieu vous ait accordé la compréhension pour les Saintes Écritures. Car de rien, rien ne vient. Et je vous dis, tout ce livre, la Bible, est la vérité de Dieu. Ce livre est dans chaque église religieuse et dans chaque église libre religieuse. Mais c'est quand ces vérités de la Bible sont révélées par le te sont révélées à toi et à moi par le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que toi et moi, tu as une relation personnelle à l'accomplissement de cette parole de Dieu, que tu as trouvé une relation personnelle à son accomplissement. Tous nous savons comment est-ce que c'est dans les prédications, tous dans les églises, dans les assemblées, tous prêchent Jésus-Christ, prêchent concernant Jésus-Christ, mais seulement là où il peut se révéler lui-même personnellement, se manifester. Nous avons même du temps jusqu'à ce que le frère ici se lève de sa chaise roulante. Moi, je vais pas oser faire quoi que ce soit de mon propre chef. Faire quoi que ce soit de mon propre chef. Sans que ce soit Dieu qui me l'ait dit de faire, ou bien de dire, ou bien de prononcer quoi que ce soit. Je ne suis pas prêt. Et aussi, je ne suis pas prêt à prier pour des petites choses et mettre les grandes choses de côté. Je suis seulement prêt quand Dieu, lui, est prêt. Et quand Dieu est prêt, alors il ne fait pas repartir les aveugles à la maison. Il leur ouvre les yeux. Et il ne dit pas aux lépreux, non, tu es malade parce que dans ta maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois d'abord aller mettre de l'ordre. Il dit, je veux, sois pur. Et alors, il dit à ceux qui sont paralysés, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Alors, les choses ne sont plus entre tes mains et entre mes mains. Mais toi et moi, nous sommes dans les mains de Dieu et c'est son œuvre. Et son œuvre est entre ses mains. Et alors, cela a lieu par la puissance du Dieu vivant. Il n'y a pas un autre chemin pour le peuple de Dieu. Je m'excuse si je suis un peu emporté dans ce que je dis. Mais le temps est si proche. Le retour du Seigneur est devant la porte. Oh, que nous puissions saisir ces choses et comprendre que nous devons vivre plus proche du Seigneur et être liés plus profondément les uns avec les autres pour que nos rencontres soient à chaque fois comme des agapes de notre Dieu, des repas d'amour. Et même si, comme croyants, nous nous rencontrons. Alors, je vous dis sincèrement, à chaque fois que les entretiens sont spirituels et concernent des choses spirituelles, des choses divines, alors on se sépare d'une visite. Après la visite, on est joyeux, on est dans la louange et on loue Dieu. Et on est fortifié, on est édifié, on est béni. Mais quand on se visite et qu'on se rend compte et qu'on a parlé de ceci et de cela, des choses négatives, alors on repart attristé et affligé. On repart à la maison affligé, attristé. Et on a en fait perdu notre temps. Et parfois, on ne peut plus réparer ce qui est sorti de notre bouche. Pas une seule parole, pas un seul mot que tu prononces, tu pourras une fois le réparer. Oh, comment nous devrions commencer à demander à notre Dieu de nous accorder sa grâce et dire, Seigneur, Seigneur, conduis-moi, pas ce que je veux dire, mais ce que tu veux dire. C'est de ce sujet-là, le sujet sur le, que tu veux nous donner, c'est de ce sujet-là que nous allons parler, même dans une réunion. Et c'est ainsi que il n'y aura pas seulement l'union, un commun accord, mais la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sera sur nous tous d'une manière puissante, descendant sur nous tous d'une manière puissante. Je ne peux rien faire d'autre. Je crois que le Seigneur achèvera son œuvre qu'il a commencée d'une manière merveilleuse. Pas à cause de moi ou à cause de toi, mais à cause de son saint nom et à cause de sa parole et à cause de son sang, il accomplira ses promesses et ensemble nous bénira. Loué et exalté soit son saint nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Oh, c'est Jésus. Seul Jésus. J'ai touché le bord de son vêtement. Et son sang m'a purifié. Nous levons les mains et chantons encore une fois. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Son sang m'a purifié. Pendant que nous courbons les têtes et persévérons dans la prière devant Dieu, est-ce que quelqu'un est ici qui n'a encore jamais consacré sa vie à Dieu? Faites-le dans cette heure. C'est peut-être que Dieu vous a conduit ici aujourd'hui. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Il est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Il est notre réconciliation, notre salut, notre avocat, notre médiateur, tout, notre souverain sacrificateur, il est tout en tous. Pendant que, dans la crainte et le recueillement, nous tenons devant la face de Dieu, je demande à ceux qui veulent apporter dans la prière devant le trône de Dieu, le trône de grâce de Dieu, qui puisse brièvement lever les mains, quoi que soient vos requêtes, qui a quelque chose, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu 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 bénisse. Le Seigneur voit tous les mains. Merci aussi là-bas. Tout à fait derrière, merci, merci. Dieu voit les mains. Il voit, merci. Il voit les cœurs, merci. Loué et remercié soit le Seigneur. Nous croyons qu'il exauce les prières. Nous croyons qu'il achève son œuvre, qu'il achèvera son œuvre de manière glorieuse. Salut et guérison, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Il est rédempteur, il est médecin, il est tout. Accepte-le aujourd'hui et dis dans ton cœur et confesse-le avec ta bouche. Seigneur, je crois que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu lui-même manifesté dans la chair, Dieu lui-même en chair, car tu t'es chargé de nos fautes et de nos péchés. Tu as porté mes péchés, répandu ton sang pour que je sois délivré. Tu t'es laissé frapper et blessé et meurtri pour que je sois guéri. Aujourd'hui, je t'accepte comme sauveur personnel et comme celui qui m'a guéri. Confirme ta parole dans ma vie et vous verrez. Dieu ne tardera pas, ne se fera pas attendre si dans la foi vous pouviez recevoir ces choses, elles vous seront accordées. Maintenant, acceptez ces choses, elles vous seront accordées. Si vous pouvez dans la foi accorder ces choses, Dieu n'est pas un Dieu de théorie, il est un Dieu de pratique. Il fait ce qu'il promet. Il accorde ce qu'il a promis. Nous voulons maintenant ensemble prier et apporter toutes les requêtes, aussi celles-ci ici, devant le trône de Dieu. Nous élevons ensemble nos voix à notre Dieu. Père céleste, nous venons devant ta sainte face dans le nom précieux de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout doit fléchir, chaque puissance des ténèbres, car c'est dans ce nom que nous prêchons, c'est en ce nom que nous prions, c'est en ce nom, dans ce nom que nous recevons, selon nos requêtes, ce que nous recevons, ce que nous demandons. Seigneur, confirme maintenant ta parole, ô Dieu. Produis la joie, et pardon, la foi, par la prédication, par ton Saint-Esprit. Et transperce-nous tous de manière puissante. Tu es encore aujourd'hui sauveur. Tu es encore aujourd'hui celui qui... Tu es encore sauveur. Tu es encore celui qui délivre, qui guérit. Tu délivre des chaînes de la captivité et tu rends libre entièrement. Adoration et honneur te soient apportés. Nous annonçons ta victoire en ton nom, à ton peuple, en accord et selon ta parole. Alléluia. Loué et exalté, honneur, gloire et adoration soient apportés à ton merveilleux nom. Amen.